The French have a very different relationship with work than the rest of us, all right? In that they don't give a shit about it. Which honestly I found inspiring. Yeah, I feel like a lot of us have become a little too attached to our work, you know? We identify with our work. Have you ever asked somebody just randomly, be like, hey, tell me about yourself? And they'll be like, well, I'm an architect. And tell me about yourself. Well, you know, I own a hair salon. And tell me about yourself. And people will tell you about what they do. You know, it's become the thing that people focus on. The French don't do that. You'll never meet a French person who does that. You go up to a French person, you'd be like, excuse me, what do you do? Be like, oh, me, I go for walks with my friends and, you know, I like to, you know, eat good food. And you're like, no. What do you do for a living? It's like, ah, for a living, pardon. Okay, for a living, okay. No, I breathe and, oh, of course, I have to make love, you know.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial, Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Merci mille fois à ceux et celles qui ont déjà fait un don à CIUT 89,5 FM. Si nous existons, c'est grâce à vous, chers auditeurs, auditrices, donateurs, donatrices, et on vous remercie chaleureusement. Mais si nous existons depuis 39 ans, c'est aussi grâce à nos nombreux partenaires et invités qui sont passés, allez, année après année, 39 ans, bientôt. Voici un extrait de certains entretiens qui ont marqué notre émission. À vous la manette, capitaine.
Et voilà, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? C'est quoi cette émission? Eh oui, en août 2025, Ciné Franco pense à vous. Ciné Franco est en pleine effervescence pour la préparation de son festival grand public, qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au Cinéma Carlton à Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce au lien de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Chaque dimanche, découvrez les coulisses, les potins et les scoops du prochain festival grand public de Ciné Franco et courez la chance de gagner des billets sur cut.fm ou popourichaud.com. Allez, vite sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Bon festival Ciné Franco 2025. Et Popourich fête ses 40 ans, eh oui, 40 ans déjà. 40 événements spectaculaires pour les membres de la radio en 2025-2026. Merci de votre fidélité. Bonne rentrée 2025-2026 sur CUT-FM, une voix alternative sur votre fréquence. Votre fréquence.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Pourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot-Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Pourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmelade?
Pourquoi les médias français sont-ils tombés si bas au point de ne plus informer, mais de manipuler? Pourquoi 90% des chaînes de télé, radio et journaux appartiennent aujourd'hui à seulement 9 milliardaires? Qui décide vraiment de ce qu'on regarde, de ce qu'on croit et de ce qu'on doit penser? Pourquoi les chaînes publiques, censées garantir une information libre et neutre, sont aujourd'hui vidées de leur sens, pendant que les chaînes privées explosent et imposent leur vision du monde? Pourquoi chaque jour on voit les mêmes invités, les mêmes experts, répéter les mêmes discours? Pourquoi les sujets qui dérangent disparaissent des plateaux, pendant qu'on nous gave de divertissements inutiles? Et qui finance tout ça, vraiment? Pourquoi les grands fonds privés, les multinationales et même des lobbies investissent par des millions dans la presse et les médias? Est-ce encore de l'information ou juste une stratégie d'influence? Pourquoi ceux qui possèdent mal les médias sont aussi ceux qui contrôlent la politique et l'économie? Peut-on encore parler de liberté de la presse ou a-t-on basculé dans la propagande moderne? Et si le vrai danger c'était qu'on ne nous informe plus, mais qu'on nous formate?
Je suis la langue française si je suis là aujourd'hui. C'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie. Pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs. Créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Mesdames, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver, où que vous soyez, de gauche, du centre, de la droite ou de nulle part, je vous souhaite la bienvenue. Les ingénieurs du son aujourd'hui sont responsables de la mise en onde, Mike Tadros et DJ Devera, production et animation Eric Adair, qui vous accompagne depuis 40 ans. 40 ans de service communautaire, 40 ans engagés au sein de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, je lance un appel à votre générosité dans le cadre de notre campagne de financement automnal du 17 au 23 novembre. Deux fois par année, la radio fait appel à des donateurs, des donatrices et ses partenaires pour sa survie. Pour y contribuer, c'est très simple, comme bonjour, cliquez sur le lien sur notre site web popourichaud.com ou sur www.cut.fm et cliquez sur « Donate » et veuillez indiquer votre don à Popourri Show. Merci de votre appui et de votre fidélité. Et au menu ce dimanche, la francophonie ontarienne en deuil. Bernard Grandmaître, le père de la loi sur les services en français de l'Ontario, est décédé mardi matin à l'âge de 92 ans à l'hôpital Montfort à Ottawa. Il avait la francophonie tatouée sur le cœur. Des centaines de messages et d'hommages affluent sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu le bonheur de le rencontrer à quelques reprises lors de mes fonctions en tant qu'agent communautaire et fonctionnaire. Mais qui est cet homme qui était vraiment effacé, mais extrêmement compétent et tolérant à la diversité de la nouvelle donne franco-ontarienne? Qu'en pensent nos universitaires? Les professeurs qui nous écoutent, les grands ténors de la francophonie et les nouveaux arrivants. J'ai l'impression que des fois nous prenons pour acquis que parler français, vivre en français, c'est tout à fait normal dans un milieu anglophone. Les jeunes et les francophones en général ne prennent pas assez de temps, à mon avis, pour mieux connaître la petite histoire de la francophonie locale ou provinciale. Pire encore, nous ne prenons pas assez de temps pour souligner la contribution et apprécier ces piliers de cette francophonie ontarienne en perte de vitesse, comme nous l'indique un récent sondage. Aujourd'hui, tout modestement, nous rendrons hommage à notre façon à ce pilier de la francophonie ontarienne, le père de la loi 8 sur les services en français, Bernard Grandmaître. Nos plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Pour mieux connaître ce personnage, je vous propose un entretien réalisé en 2001 à la télévision Rogers à Ottawa dans la deuxième heure. Aussi au programme, aujourd'hui plein feu, coup de projecteur sur la 28e édition du Festival Grand Public Ciné Franco du 7 au 16 novembre au Cinéma Carlton à Toronto, Métro Collège. Ciné Franco 2025, le meilleur et le pire de l'humanité. Il y en a pour tous les goûts. Des films sur l'esclavage, le colonialisme et l'émancipation des femmes. De l'humour et des enjeux liés à l'immigration, l'homosexualité, à la famille dans tous les sens. Un sujet inépuisable. Enfin, Ciné Franco offre le documentaire biographique « Joanne, tout simplement » de Nadine Valsin et le court-métrage « Deux moments de vie » de Quintéry Hervouet. Les deux réalisatrices torontoises seront sur place. Plus de 30 films sélectionnés par la directrice Marcelle Lynn et ses proches collaborateurs sont à l'affiche du festival jusqu'au dimanche 16 novembre au cinéma Carlton. Et en tant que média partenaire de Ciné Franco, je vous invite à nous suivre en direct à chaque dimanche et sur nos réseaux sociaux pour vivre les temps forts du festival et tenter votre chance de gagner vos places. Veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm ou visiter le site cinefranco.com ou popourrishow.com. C'est l'automne, place à la beauté et aux couleurs de la saison avec notre partenaire musique de la Little Music de Montréal et ses nouveautés. Et voici, madame, monsieur, la première découverte de ce dimanche de la Little Music. Une belle collaboration, une belle complicité entre Richie J et Rebecca Jean, deux habitués sur notre antenne, et les deux vivent à Montréal. Et aujourd'hui, Richie J et Rebecca Jean unissent leur voix dans Déjà Loin. Nouveau titre, une collaboration franco-pop où la tendresse se mêle à la douleur. Cette chanson s'inscrit dans la lignée des grandes ballades émotionnelles à la Slimane et Vita, prête à faire vibrer les ondes et les cœurs. Richie J et Rebecca Jean unissent leur voix dans Déjà Loin, une présentation de Tolalito Music en exclusivité sur CUT FM Toronto, la radio de l'Université de Toronto, la radio des découvertes. Et n'oubliez pas de faire un don à Popourri Show sur www.cut.fm et cliquez sur Donate. Merci du fond du cœur.
Tu me tournes autour, c'est comme déjà vu. Je te vois venir et je recule. On connaît déjà la fin du film. Et la dernière fois, ça m'a tout pris. Oh
yeah. T'as le cœur qui s'éleva le sang couler. Une autre cicatrice que tu veux cacher. Je peux lire dans tes yeux que t'es pas heureuse. C'est à nous d'écrire la fin du film.
Laisse-moi, pourquoi tu reviens quand je suis sur le point de t'oublier? On va pas déconner.
Mais c'est toi, toi qui me retiens. Tout de toi me manque, tu me hantes dans tout ce que je fais. Pourtant, je voulais tellement t'oublier.
Alors pourquoi tu reviens?
Dis-moi comment t'es passé. Quand je pense à nous, je peux pas concevoir que tu refasses ta vie, tu restes avec lui. Pourtant toi et moi, c'est pas fini.
For real? J'ai pas l'intention de balancer toutes ces années à ses côtés. Tu débarques comme le king pour tout chambouler. T'es un cadeau empoisonné. Laisse-moi, pourquoi tu reviens quand je suis sur le point de t'oublier? On va pas déconner.
Mais c'est toi, toi qui me retiens. Tout de toi me manque, tu me hantes dans tout ce que je fais. Pourtant, je voulais tellement t'oublier.
Alors pourquoi tu reviens?
Dis-moi comment t'es passé.
Désolé, je suis déjà loin.
Tu m'as appris à t'aimer.
Et moi je suis le chagrin.
Je voulais tout recommencer.
Tais-toi, je suis.
C'est plus fort que nous, cet amour est trop fou.
Les noms qui s'en prennent là, tu m'attires malgré moi.
Mon éternelle faiblesse, c'est vrai, je me confesse. Je voulais tellement t'oublier.
Alors pourquoi tu reviens?
N'arrive pas à t'effacer.
Désolé, je suis déjà loin.
Tu m'as appris à t'aimer.
Et moi je fuis le chagrin.
Je voudrais tout recommencer.
Oublie-moi, je suis déjà loin.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez,
quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Merci mille fois à ceux et celles qui ont déjà fait un don à CUT 89,5 FM. Si nous existons, c'est grâce à vous, chers auditeurs, auditrices, donateurs, donatrices, et on vous remercie chaleureusement. Mais si nous existons depuis 39 ans, c'est aussi grâce à nos nombreux partenaires et invités qui sont passés, allez, année après année, 39 ans, bientôt. Voici un extrait de certains entretiens qui ont marqué notre émission. À vous la manette. Capitaine.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
De neuf, les cafés du Créfou. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfou, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfou. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfou s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfou. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur OISI. utoronto.ca/fr/Créfou ou tout simplement popourichaud.com. Et justement, le Créfou nous convie à sa prochaine conférence le jeudi 6 novembre, ayant pour thématique la civilisation des expertes à l'ère du digital. Quelques voix du cyberféminisme en Afrique noire francophone. La conférencière est Odomé Ngoné, docteur en philologie espagnole de l'université Complutense de Madrid. Elle cumule 10 ans d'enseignement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Autrice de nombreux articles scientifiques et de divers ouvrages collectifs, son roman « Roi, Dieu, coupé » paru en 2013 articule « Folie et amnésie collective en contexte postcolonial ». Son essai « Femmes noires francophones » paru en 2020 interroge les rapports de pouvoir entre race, genre, langue et colonialité du récit. Donc rendez-vous, madame, monsieur, jeudi 6 novembre, du 17h30 à 19h, de 17h30 à 19h. Cet événement, je vous rappelle, sera aussi en mode hybride et en salle au Créfou 252 rue Bloor-Ouest à Toronto et à distance sur Zoom. Le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites la veille de la conférence. Veuillez consulter le site du Créfou ou popourichaud.com pour avoir les liens en question. Et maintenant, quelques sujets qui ont retenu notre attention sur France Inter et RFI cette semaine.
Est déclaré provisoirement élu le Monsieur Alassane Ouattara.
À Toit-Rouge, quartier acquis à l'opposition, l'annonce de la commission électorale n'est qu'un bruit de fond. Verre à la main, Vincent observe une partie de pétanque. La réélection d'Alassane Ouattara, c'est un non-événement pour lui.
Voilà, c'est comme si la coupe était déjà gagnée d'avance, quoi. Il n'y a pas eu de changement. Voilà. La vie continue.
Près de 70% des électeurs de Yopougon ne sont pas allés voter. Hugues en fait partie. Lui s'est résigné devant le quatrième mandat à venir du président sortant.
On t'a donné 5 ans. C'est devenu 10 ans. 10 ans est devenu 15 ans. 15 ans est devenu 20 ans. Et puis on laisse le temps faire. On veut espérer qu'il entende préparer une relève par rapport à sa succession.
Allô, président, nouveau 5 ans.
Cette succession, Kadidiatou ne veut pas en entendre parler. La commerçante est l'une des rares, ici, à manifester sa joie.
On savait qu'on allait faire un coup chaos. Il travaille, puis il a le cœur doux, il est gentil. Je l'aime. S'il était du riz, j'allais le manger. Je l'adore.
Alassane Ouattara a obtenu plus de 86% des voix à Yopougon, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et toi là, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? C'est quoi cette émission?
Eh oui, en août 2025, Ciné Franco pense à vous. Ciné Franco est en pleine effervescence pour la préparation de son festival grand public, qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au cinéma Carlton à Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce au lien de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Chaque dimanche, découvrez les coulisses, les potins et les scoops du prochain festival grand public de Ciné Franco et courez la chance de gagner des billets sur cut.fm ou popourichaud.com. Allez, vite sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Bon festival Ciné Franco 2025. Et Popouriche fête ses 40 ans, eh oui, 40 ans déjà. 40 événements spectaculaires pour les membres de la radio en 2025-2026. Merci de votre fidélité. Bonne rentrée 2025-2026 sur CUTFM, une voix alternative sur votre fréquence. Votre fréquence. Ciné Franco 2025, le meilleur et le pire de l'humanité. Démarre en grande pompe le vendredi 7 novembre à 19h au cinéma Carlton, Métro Collège, avec pour film d'ouverture Et maintenant, du franco-ontarien Jocelyn Ford. Le film raconte l'histoire d'un chanteur confronté à la maladie. C'est une comédie dramatique ou une dramédie sur un sujet lourd traité sur un ton léger, inspiré du vécu du réalisateur. Le réalisateur et scénariste franco-ontarien Jocelyn Ford réalise avec ce film et maintenant son deuxième long métrage, dont certaines scènes ont été tournées à l'Université d'Ottawa. Jocelyn Ford, qu'on peut retrouver sur la plateforme digitale ONFR de temps en temps, sera présent à Toronto pour discuter de son film avec le public de Ciné Franco. Deux paires de billets. Ah oui, tirage au sort de deux paires de billets pour ce film d'ouverture et maintenant, le vendredi 7 novembre. J'attends vos messages immédiatement à popourri@cut.fm. Avant de passer à une entrevue réalisée par des jeunes de l'ACFO d'une certaine région en Ontario, je vous présente la bande-annonce qui vous donnera peut-être le goût. Allez découvrir ce film sur www.cinéfranco.com ou popourichaud.com. Allez, je retrouve nombreux le 7 novembre au cinéma Carlton. Bon cinéma, bonne fête à Ciné Franco. Et voici la bonne annonce.
On sait jamais comment longtemps.
Écoute, mais ça, les boys sont inquiets.
Le châssis va tenir.
C'est quoi, une intervention?
Tu peux rester enfermé seul, couché sur ton divan.
Tant qu'on respire, y a de l'avenir. Tant qu'on respire, y a de l'avenir, y a de l'avenir. Tant que je respire.
Bonjour tout le monde, re-bienvenue au troisième épisode du Balado Franco. Je me présente Cassandra, votre animatrice de cette série. Est-ce que vous aimez le cinéma franco-ontarien? Si oui, vous avez de la chance, car aujourd'hui, nous allons rencontrer un pro du cinéma. Notre invité aussi a fait plein d'émissions et des films pour tous les âges, une grosse variété. Est-ce que vous avez deviné c'est qui? Sinon, laissez-moi vous donner quelques indices. Il a créé un film de Noël super intéressant qui est très reconnu dans la communauté SDG, surnommé « Noël en boîte ». De plus, il est originaire de Moose Creek et il a créé une série qui se surnomme « La gang de hockey ». Accueillons chaleureusement M. Jocelyn Forgh.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci.
Mais je sais que vous êtes super occupé en ce moment avec votre long métrage.
Oui.
Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous
Ça
aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Donc, pouvez-vous vous introduire à la communauté et parler comment vous êtes impliqué dans la communauté francophone?
Alors, moi, je suis originaire de Moose Creek. J'ai grandi à Moose Creek. Je suis né à l'hôpital Hôtel-Dieu à Cornwall. Et j'ai grandi à Moose Creek sur une ferme laitière. Et j'ai fait donc mon primaire à Moose Creek, mon secondaire à Castleman. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre des études en théâtre. Donc, je suis allé à Los Angeles. J'ai fait des études en anglais. Et ça m'a apporté dans l'Ouest canadien pendant de nombreuses années, principalement en Saskatchewan. Et depuis 2000, j'ai décidé de revenir dans mon village natal de Moose Creek, où je poursuis une carrière de parfois comédien, mais surtout scénariste et réalisateur.
Wow, mais c'est vraiment captivant de vous entendre parler que vous vivez dans les deux mondes, devant la caméra, derrière la caméra. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être un moment coup de cœur de tout ça?
J'aime mon métier. J'adore mon métier. Et je pense qu'au cours des années, ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, c'est que j'aime raconter des histoires, que ce soit comme comédien, que ce soit comme scénariste ou comme réalisateur. C'est vraiment de partager, de faire vivre des émotions à un public.
Est-ce que faire des émotions, surtout avec le corps, le visage, est-ce que des fois, ça impose certains défis?
Des défis, je pense que ça commence toujours par une bonne idée ou une bonne histoire. Ça nous prend une bonne histoire solide, je dirais, pour justement pouvoir ensuite créer des personnages autour de ça et bien les camper dans une atmosphère particulière.
Oui, c'est très intéressant de vous entendre parler de tout ça. En parlant de votre long métrage qui s'intitule « Et maintenant », comment est-ce que ce film-là fait lien avec la francophonie, justement?
C'est-à-dire que, un, ça se déroule en français.
Oui.
Deux, moi, étant originaire de Moose Creek, donc j'écris souvent, les scénaristes écrivent à partir de leur vécu.
Ouais.
Donc, c'est sûr que je connais bien l'Est ontarien. Et puis, donc, pour moi, cette histoire-là, dans ma tête, se situe dans l'Est ontarien. Il y a à la fois la campagne et il y a la ville aussi, parce que c'est un personnage qui habite à la campagne, mais qui a un cancer et doit subir des traitements. Donc, il doit se diriger à la ville pour subir ses traitements.
C'est quand même intéressant. Puis, je sais que dans votre film Noël en boîte, justement, vous avez filmé ça au nord.
Oui.
Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ça? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit-là?
C'est sûr que au Canada, la production, que ce soit télé et surtout cinéma, on n'est pas américain. C'est pas Hollywood. Ouais. On n'a pas les budgets des Américains.
Oui.
Donc, il faut aller là où est l'argent aussi. Parce que le plus difficile, c'est de trouver. Ça prend des grosses sommes d'argent. Ça coûte très cher.
Mm-hmm.
Donc, pour trouver ces sommes-là, il y a différents investisseurs un peu partout. Et il y a un fonds dans le nord de l'Ontario qui permet aussi de faire des séries télé ou des films. Alors, à ce moment-là, on a fait appel à ce fonds-là. Ils nous ont accordé les fonds, mais pour ça, il faut tourner dans leur région. Donc, Noël en boîte a été tourné à North Bay et Mattawa, principalement.
Oui, OK.
Et puis, mais celui-ci, on a trouvé d'autres fonds qu'on pouvait tourner chez nous, dans notre région.
Oh, wow! Mais c'est vraiment bien.
Oui.
En parlant aussi de différents accents, de différents endroits, est-ce que vous avez déjà vécu de l'insécurité linguistique? Et si oui, comment est-ce que vous l'aviez géré?
Énormément.
Oui.
Oui. Je pense que... je dirais pas nécessairement à l'école élémentaire, puis peut-être pas au secondaire, parce que j'ai quand même fait mon élémentaire et mon secondaire en français. Donc, on est vraiment immersé dans un monde, une culture francophone à ce moment-là. Mais c'est sûr que dès que on sortait, disons, en ville, par exemple, ou si on faisait des voyages, des choses comme ça, tu sais, je me suis souvent fait dire, « Ah, toi, t'es pas français de France, t'es pas québécois. » Donc, t'es pas un vrai francophone.
Mm.
Et c'est sûr que je dirais, quand on est jeune et à l'adolescence, je pense que ça vient un peu nous marquer parce qu'on est en train de construire notre identité. Et quand on se fait dire, mais t'es pas ça, à un moment donné, on se demande, mais je suis qui? Mais je pense que une fois que je me suis retrouvé dans l'Ouest canadien et j'ai découvert la Françaisoise. Et le temps que j'étais là, dans ma vingtaine, je pense que j'ai vu la Françaisoise, les gens là-bas, travaillent fort pour garder leur culture. Et ça l'a comme résonné dans ma tête. Et puis, et là, je me suis dit, ah tiens, c'est comme, c'est à moi de définir c'est quoi ma culture. C'est pas aux autres de me dire qui je ne suis pas ou qui je suis, c'est à moi de le définir. Et puis, j'ai essentiellement toujours travaillé en français. Je travaille aussi en anglais, mais je travaille beaucoup en français. Et puis, au cours des années, je me suis défini.
Wow! Mais quand vous parlez, genre, de pouvoir garder et de pouvoir garder sa culture, justement, quand vous avez déménagé à Los Angeles pour faire vos études, est-ce que vous avez vécu cette insécurité-là, justement?
Non, parce que je pense que j'étais vraiment en immersion anglaise, je dirais, parce qu'à Los Angeles, il y avait une personne avec qui je pouvais parler français, tous les autres étaient anglophones. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à Los Angeles, le fait que j'étais francophone était célébré. Les gens trouvaient ça formidable qu'il y avait quelqu'un qui pouvait parler français. Tandis que parfois, dans certaines de nos régions où on est minoritaire, parfois, c'est parfois mal vu qu'on parle français entre nous en public ou des choses comme ça. Tandis qu'à Los Angeles, les gens me demandaient de parler français. Donc, il y avait comme une célébration derrière ça.
Donc, en parlant français à Los Angeles, et de peut-être montrer aux autres c'est quoi cette langue-là et cette culture franco-ontarienne, est-ce que c'est comme ça que vous avez gardé votre francophonie en étant dans un coin comme à Los Angeles qui est majoritairement en anglais?
Bien, c'est-à-dire que j'ai habité un peu partout au Canada. J'ai voyagé un peu partout au Canada aussi. Mm-hmm. Et je dirais que je me définis, c'est sûr, de naissance franco-ontarien, mais je me définis comme franco-canadien. Parce que j'ai quand même habité dans l'Ouest canadien longtemps, où je travaillais aussi en français. Donc, et j'ai appris à connaître les franco-manitobains, les franc-sasquois, franco-albertains, tout ça. Donc, je pense que j'ai quand même une bonne connaissance et conception de la francophonie canadienne en général. Donc, et comme j'ai habité là-bas aussi, ben, je me définis comme franco-canadien aussi, tu dirais.
Psst! J'ai une surprise pour vous. Avant de continuer le balado, j'aimerais pouvoir partager avec vous un moment magique que j'ai vécu avec Madame Christelle Viduka, la productrice du long-métrage Et maintenant. Voici. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment choyée de pouvoir poser quelques questions à Madame Viduka, la productrice du film Et maintenant. Alors, pouvez-vous vous présenter à la communauté? Qui êtes-vous et quelle est votre implication au sein de la communauté francophone?
Oui, bien, mon nom est Christelle Viduka. Comme ça a été dit, je suis la productrice du dernier long-métrage de Jocelyn Faure qui s'appelle Et maintenant.
Oui.
Et je suis également la propriétaire de la maison de production Atomédia, qui est principalement, on produit du contenu francophone, beaucoup de jeunesse, beaucoup de... autant on a fait des projets de dramatique que documentaire que fiction et c'est notre premier long métrage sous la compagnie.
Wow.
On est bien fiers de pouvoir le faire.
Est-ce que vous avez un genre, vous avez parlé de documentaire, de fiction, est-ce que vous personnellement vous avez un genre préféré?
Non, pas du tout. Ma compagnie, quand je l'ai ouvert, j'ai trois filles, puis elles sont petite à ce moment-là quand je l'ai ouvert. Donc, je produisais beaucoup de contenu en français. Je voulais que c'est du contenu que mes enfants regardent. Et ça a évolué maintenant qu'elles sont plus grandes, en plus adultes.
Oui, définitivement. Puis c'est bien d'avoir du contenu pour tous les âges, ouais. Pour la jeunesse, afin d'avoir une bonne représentation franco-ontarienne. Est-ce que vous avez déjà vécu des enjeux dans le domaine cinématographique avec les cinémas franco-ontariens?
Cinématographie, oui. Je pense que c'est un des... je dirais, des projets les plus difficiles à financer. Parce que pour pouvoir avoir du financement, il faut qu'on demande à Téléfilm Canada, qui est la source principale de financement. Et eux, c'est très difficile parce qu'on me soumet à Montréal, étant un scénario en français.
Okay.
Puis on se bat avec tous les Québécois. Donc, on se bat avec toutes les productions québécoises. Et c'est très difficile de obtenir du financement. Pour vous dire à peu près, ce long métrage, quand je l'ai soumis à Téléfilm, il y a eu 137 demandes.
Wow.
De 137, ils ont choisi seulement 7 projets.
Wow.
De ces 7 projets, on est les seuls qui est hors Québec.
Mais c'est incroyable.
On est vraiment contents, mais joyeux. On est très reconnaissants de cette opportunité de pouvoir le faire, car c'est important de pouvoir produire en Ontario, en français. C'est important que les gens se reconnaissent, qu'ils voient l'authenticité dans notre contenu. Et je pense, peu importe, comme tu disais, qu'est-ce que j'aimais produire, ou du moment que c'est authentique, que ça reflète la culture et nous. Je pense que c'est très important.
Pour vous, la culture franco-ontarienne ou francophone en général, c'est quoi?
Moi, je suis arrivée au Canada en 1996,
okay.
De France.
Wow!
Et j'ai adopté Ottawa comme ma ville.
Oui!
Puis, plus de 25 ans que je suis ici. Important, je trouve que c'est le Canada en général et Ontario est tellement multiculturel. Mm-hmm. Et de voir notre langue en français était faite dans différentes ethnicités,
oui.
C'est la beauté de l'Ontario, c'est la beauté du pays.
Ouais. S'il y aurait quelqu'un qui écoute justement, qui aimerait ça se mettre en production et d'étudier là-dedans, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner?
Oui, je parle souvent, je fais des présentations pour les écoles. J'essaie de promouvoir le plus possible, de développer du talent, car nous en manque. Des fois, en minorité, étant minorité, c'est difficile d'avoir que du personnel francophone.
Ouais.
Et donc, il faut développer plus de talent, il faut que des gens s'intéressent, oui, à notre industrie, qu'ils viennent travailler avec nous, parce que c'est le futur. Donc, si petit à petit, il y a moins de monde qui se lance dans notre industrie, nous, en tant que producteurs, on aura moins de main-d'œuvre.
Oui.
Toute formation que je fais, que j'aide, je pense que c'est important pour le futur de l'industrie en français.
Définitivement. Donc, est-ce que vous avez écouté ça? C'est important de s'impliquer dans ce qu'on est intéressé, de s'impliquer en français. Alors, c'est vraiment un bon conseil, un bon commentaire que vous avez partagé. Merci.
Oui, puis je dirais, si vous voulez lancer dans l'industrie, commencez par la figuration, parce que c'est là où vous voyez toutes les plateaux de tournage, puis comment ça se déroule, puis vous pouvez voir à peu près les tâches de chaque poste. Ça permet de vous donner un petit peu une idée qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais d'essayer, ce serait intéressant.
À part la figuration, est-ce qu'il y aurait d'autres choses aussi que les gens pourraient s'impliquer pour commencer?
Nous, on fait beaucoup, on prend des stagiaires,
okay.
On fait appel à collaboration avec la Cité collégiale à Ottawa,
oui.
Puis même les écoles secondaires qui ont des programmes en télé, on prend des stagiaires. C'est vraiment, je pense, c'est sûr que vous commencez quand vous commencez dans l'industrie, vous commencez comme assistant de production.
Oui.
Ça veut dire que vous faites un peu tout. Mais ça vous permet de voir également tous les autres postes et puis de monter en grade, éventuellement trouver ce que vous voulez faire. Donc, ne pas lâcher.
Ne pas lâcher. C'est un super bon conseil à donner.
Okay.
Donc, je pense qu'on va conclure comme ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions,
merci
d'avoir partagé.
Merci.
J'espère que vous avez apprécié ce segment avec Madame Viduka. Et maintenant, de retour au balado. Alors, dans tous les projets que vous avez faits, comme les longs-métrages, vous avez fait des séries pour la jeunesse,
oui,
aussi, c'était vraiment intéressant. J'ai jeté un coup d'œil,
okay,
puis j'ai beaucoup aimé la diversité dans vos travaux. Comment est-ce que vous représentez la francophonie dans vos travaux? Vous en avez déjà parlé, mais comment est-ce que vous faites la promotion de la francophonie dans vos projets?
Bien, souvent, je vais parler, quand on parle aux investisseurs ou aux télédiffuseurs, je vais parler des francophonies. Je ne parle pas de la francophonie, parce que je pense qu'il y a différentes couleurs, il y a différents accents.
Oui.
Juste en Ontario, tu as l'accent franco-ontarien de l'Est,
oui,
tu as le Nord aussi, tu as le Sud, tu as le Nord-Ouest, et les francophones de Toronto, on a tous nos accents. La Française-Coisée, c'est pareil, même en Saskatchewan, il y a différents accents dans différentes régions.
Mm-hmm.
Les Acadiens ont leur accent aussi,
oui,
parfois on parle d'accent québécois. Donc déjà, j'aime les accents, j'aime la couleur de la langue française. Je me dis qu'une langue, c'est là en premier pour communiquer. Alors, en autant qu'on se comprend, déjà on a réussi. Donc parfois les gens disent « Oh, je parle mal français ». Mais pour moi, c'est déjà, si on a réussi à se comprendre, c'est un bon début.
Mais oui.
Après ça, parfois, si jamais il y a des petits anglicismes ou des expressions locales, moi, ça m'amuse aussi, les expressions locales, puis on apprend à découvrir, justement. Donc, je parle des francophonies dans ce sens-là.
Et oui, c'est le fun d'apprendre des accents d'ailleurs, des expressions, que moi-même, j'ai été faire un programme d'échange en France.
Oh.
Puis j'ai pu apprendre aussi à apprécier différentes cultures, à s'adapter,
oui,
à apprendre. Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Moi aussi, j'ai vécu dans un sens, donc c'est vraiment cool. Comment est-ce que vous vivez votre francophonie en 2024?
Je pense qu'en 2024, moi, en tout cas, je remarque beaucoup plus d'ouverture de la part de la société sur, je dirais, le multiculturalisme, qui inclut aussi la francophonie là-dedans. Je pense que c'est... Donc, on entend différentes langues, on a différentes cultures maintenant. C'est peut-être moins homogène anglophone, comme ça l'a déjà été l'Ontario.
Mm-hmm.
Je pense que maintenant, on s'est vraiment varié. Et puis, cette diversité-là ben, doit être célébrée, qu'importe la culture ou la langue. Mais je pense que ça a ouvert une certaine place à la francophonie.
Définitivement. C'est tellement beau aussi d'avoir la diversité, parce qu'un monde sans diversité, ça serait tellement plat. Donc, c'est vraiment beau d'apprécier ça. Puis, donc, merci pour ton partage. Donc, comment est-ce que votre parcours a-t-il influencé votre perception de la francophonie?
Ben, moi, j'ai été élevée dans une famille francophone.
Okay.
Donc, à la base, la radio, la télévision, c'était surtout en français. Mmh. À la maison, puis c'est bien avant l'ère de l'Internet et tout ça. Donc ça se passait en français dans mes deux familles, de mon père et ma mère, mes oncles, mes tantes, c'était des francophones aussi. Donc tout se déroulait pas mal en français. À l'école élémentaire, j'ai fait mes études en français. Au secondaire, où j'ai choisi d'aller à une école francophone pour le secondaire. Donc, je dirais que j'ai toujours baigné dans la francophonie. Donc, pour moi, c'était... Je me posais pas de questions à ce niveau-là, dans le sens que c'était en français, c'était ma langue, c'était ma culture. Mm-hmm. C'est sûr, je pensais à l'adolescence, puis quand on est jeune adulte, c'est là que tranquillement, on commence à découvrir davantage d'autres cultures. On a de nouveaux amis qui ont peut-être pas nécessairement le même background, ils ont pas la même culture, tout ça. Et puis, tranquillement, c'est là qu'on voit, et c'est là que, à ce moment-là, je pense qu'on vient qu'à se définir un petit peu, qu'on vient qu'à s'attacher un peu à nos racines, je dirais.
Est-ce qu'il y a un moment que vous avez vécu qui vous a vraiment défini en tant que franco-ontarien?
C'est une très bonne question. Je pense que quand Noël en boîte est sorti, donc mon premier long-métrage en 2018, j'étais très, très fier. C'était peut-être un add-on, mais j'étais très, très fier, et je suis toujours très fier, de dire que c'est un film 100% ontarien. Mm-hmm. Donc, tous les gens qui ont travaillé devant la caméra, derrière la caméra, au montage, les compositeurs de musique, ainsi de suite. Donc, tout le monde venait de l'Ontario. Okay. Déjà, en partant, c'est assez rare dans ce sens-là. Et puis, mais de voir la réception du film dans les salles, j'étais invité parfois à aller présenter le film dans des festivals et de voir les salles combles, de voir la francophonie de l'Ontario qui sortait et ça l'a fait du bouche à oreille tellement rapidement que je me souviens, je recevais des requêtes de théâtre, de cinéma sur Facebook pour dire est-ce qu'on peut se procurer le film, on aimerait le présenter dans notre communauté. Et là, tout à coup, le film était joué à Hearst, il était joué à Timmins, il était joué à toutes sortes d'endroits, un peu partout en Ontario. Et puis, et on me disait, on a fait ça à le comble, est-ce qu'on peut le garder encore une semaine parce qu'on n'y avait pas assez de sièges?
Wow.
Puis là, on disait, ben oui, tout à fait. Et puis là, on me disait, bon, on va le garder une deuxième semaine parce que c'était ça. Et là, je me disais, wow, tous ces gens-là, tous ces francophones ou francophiles peut-être, se rendent au cinéma pour voir ce film-là. Et les gens nous écrivaient à travers la plateforme Facebook. Et puis, les gens se reconnaissaient là-dedans. Puis, je me disais, ça m'a touché de voir qu'il y avait autant de francophones qui pouvaient se reconnaître dans une œuvre que tu as créée.
C'est vraiment important de voir se reconnaître à la télévision.
Oui.
Puis, moi, je pense que pouvoir voir des choses plutôt en Ontario français, c'est tellement beau. Donc, je suis vraiment, vraiment fière de ma culture. De voir la voir sur un écran, c'est juste vraiment incroyable. Donc, merci d'avoir fait ça. C'est vraiment un super beau projet que vous avez fait et que vous continuez à faire.
Ah oui, oui.
Donc, si on pense à l'avenir, aux futures générations, qu'est-ce que vous aimeriez offrir à ces futures générations-là francophones que peut-être qu'on vit des difficultés en ce moment à obtenir?
Ben, c'est sûr qu'il faut continuer de demander et d'exiger nos services en français, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, que ce soit ne serait-ce pour aller renouveler notre permis de conduire, ainsi de suite. On est francophone, d'après moi, on y a droit, la loi est là, donc il s'agit de faire la requête. En même temps, je dirais qu'il faut être consistant aussi, parce que je suis sûr, si je demandais à plein de francophones, est-ce que votre système d'exploitation sur votre téléphone, est-ce qu'il est en anglais ou en français? Ou votre ordinateur à la maison, ainsi de suite. Puis ensuite, ben, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, c'est prouvé. Notre éducation en français en Ontario est tout aussi bonne, si pas meilleure qu'en anglais.
Oui.
Donc, il n'y a pas de choix nécessairement à faire à ce niveau-là. Et puis après, ben, c'est aussi de profiter de la vie en français. Donc, c'est pas juste de... Parfois, tu sais, j'entends, il faut se battre pour le français. Oui, peut-être, mais il faut aussi vivre en français. Il faut profiter de la vie en français.
Définitivement, je suis complètement d'accord. C'est important de pratiquer notre langue afin de pouvoir la montrer et la partager à tout le monde. Donc, je pense que c'est un bon temps pour pouvoir choisir un fait saillant sur la francophonie de la communauté SDG.
Oui. Parfait.
Donc, je vous laisse choisir.
OK. J'ai choisi un billet au hasard.
Ah oui, c'est ça.
Puis là, je peux-tu le regarder avant ou non?
Oui.
Je te laisse lire.
Super. Donc, en 1948, le premier collège de Cornwall était situé dans une maison sur la rue Lawrence, où seuls les garçons avaient accès à l'éducation. À partir de 1964, les filles ont été autorisées à étudier pour obtenir un baccalauréat. Donc, c'est vraiment impressionnant d'avoir un collège francophone, justement, à Cornwall, qui était dans une petite maison, où il y avait des prêtres, tout ça, qui étaient vraiment comme les profs. Et ensuite, au début, vraiment, c'était juste les garçons qui avaient le droit à cette éducation-là. Et ensuite, les femmes ont pu aussi appliquer dans ce programme-là. Donc, il y a eu cette évolution-là en français à Cornwall. Donc, c'est quand même bien d'avoir vu ça. Donc, très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, puis l'éducation française?
Bien, j'allais dire, moi, quand j'étais en Saskatchewan, j'ai enseigné dans un collège privé qui avait été établi en 1918 par les Oblats.
Okay.
Alors, pendant de nombreuses années, c'était un collège pour les garçons. Puis, je pense que c'est en 1976 qu'il s'est devenu un collège laïque. Et là, ils ont permis aux femmes de s'ajouter à ça. Moi, j'étais là de 1990 à 1999. J'ai enseigné à ce collège-là.
Oh, wow! Oui. C'est vraiment intéressant d'avoir des liens comme ça.
Oui.
Donc, merci beaucoup, M. Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vraiment apprécié de vous connaître, apprendre à connaître le cinéma francophone et aussi même la communauté de l'Est ontarien et tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter?
Merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Et puis, continuez à vivre en français. Profitez-en.
C'est un super bon conseil. Alors, si vous voulez en savoir plus au sujet de notre invité, allez écouter le balado de ma collègue La Petite Histoire de Marianne Delmé-Barquier. Alors, n'oubliez pas de venir sauter dans notre étang la semaine prochaine. Au revoir!
J'écris cette lettre, je pose enfin mes mots à celle qui m'a fait naître et bénie au berceau. J'écris cette lettre avec les yeux pleins d'eau d'un passé qui nous pèse bien lourd et le fardeau. Lui dire que je suis fier, même si je ne suis plus là, 5500 kilomètres me séparent de ses bras. L'amour que j'ai pour elle jamais ne s'éteindra. Les sacrifices qu'elle a fait, un jour Dieu lui rendra. Bien plus fort, quand je revois ses larmes couler, maman, est-ce que tout va bien? Ce sera la première femme à se donner pour les autres, au détriment de son bien, et sous les coups d'un homme. Oh, 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 maman, oh, oh, maman, oh, oh. Tu as été forte, plus qu'une guerrière, je te le dis. Et je te pardonne pour toutes ces années cachées là où tu sais, pour me protéger. Ma bague.
Ces mots à toutes les personnes victimes de violence, nos femmes, nos mères, nos sœurs, qu'elles soient libres de vivre sans avoir peur d'exister. Je lève ma plume pour honorer celle qui m'a donné la vie. Avec ces mots, je te livre ce que j'ai de meilleur. Je suis fier de ton fils adoré.
Bien plus fort, quand je revois ses larmes couler, maman, est-ce que tout va bien? Ce sera la première femme à se donner pour les autres, au détriment de son bien, et sous les coups d'un homme. Oh, 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 maman, oh, maman, oh, maman, oh, maman, oh, maman, je t'aime, même dans le pire. Tu as été forte, plus qu'une guerrière, je te le dis. Et je te pardonne pour toutes ces années cachées là où tu sais, pour me protéger. Ma bague.
Ces mots à toutes les personnes victimes de violence, nos femmes, nos mères, nos sœurs, qu'elles soient libres de vivre sans avoir peur d'exister. Je lève ma plume pour honorer celle qui m'a donné la vie. Avec ces mots, je te livre ce que j'ai de meilleur. Que tu sois fier de ton fils adoré.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial, Potpourri Show. CIUT-FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT-FM.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Pourquoi les médias français sont-ils tombés si bas au point de ne plus informer mais de manipuler? Pourquoi 90% des chaînes de télé, radio et journaux appartiennent aujourd'hui à seulement 9 milliardaires? Qui décide vraiment de ce qu'on regarde, de ce qu'on croit et de ce qu'on doit penser? Pourquoi les chaînes publiques, censées garantir une information libre et neutre, sont aujourd'hui vidées de leur sens, pendant que les chaînes privées explosent et imposent leur vision du monde? Pourquoi chaque jour on voit les mêmes invités, les mêmes experts, répéter les mêmes discours? Pourquoi les sujets qui dérangent disparaissent des plateaux, pendant qu'on nous gave de divertissements inutiles? Et qui finance tout ça, vraiment? Pourquoi les grands fonds privés, les multinationales et même des lobbies investissent par des millions dans la presse et les médias? Est-ce encore de l'information ou juste une stratégie d'influence? Pourquoi ceux qui possèdent mal les médias sont aussi ceux qui contrôlent la politique et l'économie? Peut-on encore parler de liberté de la presse ou a-t-on basculé dans la propagande moderne? Et si le vrai danger c'était qu'on ne nous informe plus mais qu'on nous formate?
Ça fait 40 ans aujourd'hui que nous sommes à la barre de Potpourri Show sur CUT-FM. Les 40 ans de Potpourri Show, c'est aussi l'anniversaire des auditeurs, des bénévoles et des partenaires. Que de chemin parcouru. Une des rares émissions sur cette antenne, en français, en créole, depuis 40 ans. 40 ans, un âge où il est temps de faire le bilan. Que signifie cette émission pour vous, madame, monsieur? Allez, j'ai hâte de vous entendre, soit en nous envoyant un enregistrement ou un message par courriel à potpourri@cut.fm. Que signifie Potpourri Show pour vous? Tirage au sort de cadeaux et de belles surprises. Toute l'équipe de la radio vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre désir de participer à nos émissions en tant que nouveaux collaborateurs et partenaires. Potpourri Show, 40 ans déjà.
De 11h à 13h, Potpourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Merci mille fois à ceux et celles qui ont déjà fait un don à CUT 89,5 FM. Si nous existons, c'est grâce à vous, chers auditeurs, auditrices, donateurs, donatrices, et on vous remercie chaleureusement. Mais si nous existons depuis 39 ans, c'est aussi grâce à nos nombreux partenaires et invités qui sont passés, allez, année après année, 39 ans, bientôt. Voici un extrait de certains entretiens qui ont marqué notre émission. À vous la manette, capitaine.
Je
suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Et justement, le CREFO nous convie à sa prochaine conférence, le jeudi 6 novembre, ayant pour thématique « La civilisation des expertes à l'ère du digital ». Quelques voix du cyberféminisme en Afrique noire francophone. La conférencière est Odomé Ngoné, docteur en philologie espagnole de l'Université Complutense de Madrid. Elle cumule 10 ans d'enseignement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Autrice de nombreux articles scientifiques et de divers ouvrages collectifs, son roman « Roi, Dieu, coupé » paru en 2013 articule « Folie et amnésie collective en contexte postcolonial ». Son essai « Femmes noires francophones » paru en 2020 interroge les rapports de pouvoir entre race, genre, langue et colonialité du récit. Donc rendez-vous, madame, monsieur, jeudi 6 novembre, du 17h30 à 19h, de 17h30 à 19h. Cet événement, je vous rappelle, sera aussi en mode hybride et en salle au CREFO 252 rue Bloor-Ouest à Toronto et à distance sur Zoom. Le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites la veille de la conférence. Veuillez consulter le site du CREFO ou popourishow.com pour avoir les liens en question. Et maintenant, quelques sujets qui ont retenu notre attention sur France Inter et RFI cette semaine.
Et on va passer tout de suite à Info Intox. Et Info Intox est avec vous ce soir. Marc Pope, bonsoir.
Bonsoir, Claire.
Le procès pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron vient de s'ouvrir en France contre 10 personnes qui sont accusées d'avoir relayé l'infox selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Racontez-nous.
Oui, effectivement, hein, ce procès, c'est un peu l'aboutissement logique de 4 ans de polémiques et de rumeurs sur les réseaux sociaux par un internaute peu scrupuleux qui relaye un peu tout et n'importe quoi, qui s'en prennent principalement donc à la sexualité et au genre de Brigitte Macron. On trouve donc ainsi ce genre de message sur les réseaux sociaux d'internautes qui l'accusent d'être une pédophile, pointant du doigt l'écart d'âge entre elle et son mari Emmanuel Macron, qui est donc de 25 ans. Puis d'autres affirment tout simplement, comme vous l'avez dit, que Brigitte Macron, née trogneux, serait en fait un homme et qu'elle répondrait au nom de Jean-Michel, comme on pourrait le voir ainsi sur cette photo, sauf qu'en fait Jean-Michel Trogneux, il existe bien, c'est le frère de Brigitte Macron. Cette fausse information, elle est apparue sur les réseaux sociaux en 2021 par ces deux internautes. Ici nous avons Amandine Roy qui se présente comme étant donc une médium, et puis également aussi Natacha Ray qui, elle, s'autoproclame comme étant journaliste donc indépendante, une accusation qui en fait ne repose sur absolument rien de concret. Le couple Macron a de son côté rapidement porté plainte pour diffamation contre les deux femmes. En septembre 2024, elles ont été condamnées en première instance avant d'être ensuite relaxées en appel. C'était le 10 juillet dernier et Brigitte Macron a fait appel de à cette décision. Elles sont aujourd'hui de nouveau sur le banc des accusés, cette fois avec 8 autres personnes pour cyberharcèlement contre la première dame.
Et Marc, depuis 4 ans, cette intox, elle a pris une dimension inimaginable sur les réseaux sociaux.
Effectivement, hein, les montages ont pullulé sur les réseaux sociaux à l'image de celui-ci qui semble accréditer donc le fait que ce soit qu'elle ait été un homme. Effectivement, c'est un simple photomontage. Il y a aussi ceux qui sont allés jusqu'à affirmer que un médecin avait été retrouvé mort. C'était un médecin qui était lié justement aux rumeurs sur la transidentité de la première dame. C'était bien sûr complètement faux, généré par intelligence artificielle. L'intox a également été extrêmement relayé envoyée outre-Atlantique par la voix de l'influenceuse de MAGA, Candace Owens, qui a décidé d'en faire un peu son fond de commerce, très clairement, dans une série d'émissions intitulée Becoming Brigitte, c'est-à-dire devenir Brigitte. Il y a eu au total 11 épisodes sur cette série qui ont été visionnés entre 1 400 000 fois et 5 700 000 fois sur les réseaux sociaux. Candace Owens a même fait le buzz vendant ses t-shirts que vous allez voir avec lequel, sur lequel on peut voir la une du magazine Times qui est prétendument montrant donc Brigitte Macron qui serait donc Man of the Year, l'homme de l'année. Bien sûr, tout cela est complètement faux. En décembre 2024, le couple présidentiel lui a demandé de retirer ses accusations diffamatoires, ce qui n'a eu pour effet que d'attiser la verve de l'influenceuse. Et finalement, en juillet dernier, ils ont porté plainte contre elle aux États-Unis cette fois.
Et ce n'est pas la première fois que des femmes de premier plan sont accusées d'être transgenres.
Non, effectivement, on croit que dès qu'on est une femme, eh bien, et qu'on acquiert de l'importance, eh bien, on est systématiquement ciblé par ce genre d'accusation. Souvenez-vous, ça avait été le cas avec une autre première dame. Cette fois, c'était aux États-Unis. Je parle de Michelle Obama, qui, comme vous pouvez le voir sur ses différentes photos montages, eh bien, elle avait aussi été accusée d'être un homme. Ça avait également été le cas avec Kamala Harris, l'ancienne candidate à la présidentielle et ancienne vice-présidente des États-Unis, ou encore l'ancienne première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui avait également été accusée de la sorte. À cela, on peut aussi ajouter en France, dans une moindre mesure, la chanteuse Sheila. C'est un petit clin d'œil à notre rédacteur en chef Arnaud Rivoire, qui est un grand fan. Ce phénomène, plus sérieusement, a un nom. Ça s'appelle la transvestigation. C'est un mot valise qui comprend transgenre et investigation. Et il désigne la recherche permanente par la complosphère de personnalités transgenres.
C'était Info Intox. Merci beaucoup, Marc Pope.
Mesdames, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver, où que vous soyez. De gauche, du centre, de la droite ou de nulle part, je vous souhaite la bienvenue. Les ingénieurs du son aujourd'hui, responsables de la mise en onde, Mike Tadros et DJ Devera. Production et animation Eric Adair, qui vous accompagne depuis 40 ans. 40 ans de service communautaire, 40 ans engagés au sein de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, je lance un appel à votre générosité dans le cadre de notre campagne de financement automnal du 17 au 23 novembre. Deux fois par année, la radio fait appel à des donateurs, des donatrices et ses partenaires pour sa survie. Pour y contribuer, c'est très simple, comme bonjour, cliquez sur le lien sur notre site web popourichaud.com ou sur www.cut.fm et cliquez sur Donate et veuillez indiquer votre don à Popourichaud. Merci de votre appui et de votre fidélité. Et au menu ce dimanche, la francophonie ontarienne en deuil. Bernard Grandmaître, le père de la loi sur les services en français de l'Ontario, est décédé mardi matin à l'âge de 92 ans à l'hôpital Montfort à Ottawa. Il avait la francophonie tatouée sur le cœur. Des centaines de messages et d'hommages affluent sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu le bonheur de le rencontrer à quelques reprises lors de mes fonctions en tant qu'agent communautaire et fonctionnaire. Mais qui est cet homme qui était vraiment effacé, mais extrêmement compétent et tolérant à la diversité de la nouvelle donne franco-ontarienne. Qu'en pensent nos universitaires, les professeurs qui nous écoutent, les grands ténors de la francophonie et les nouveaux arrivants? J'ai l'impression que des fois nous prenons pour acquis que parler français, vivre en français, c'est tout à fait normal dans un milieu anglophone. Les jeunes et les francophones en général ne prennent pas assez de temps, à mon avis, pour mieux connaître la petite histoire de la francophonie locale ou provinciale. Pire encore, nous ne prenons pas assez de temps pour souligner la contribution et apprécier ces piliers de cette francophonie ontarienne en perte de vitesse, comme nous l'indique un récent sondage. Aujourd'hui, tout modestement, nous rendrons hommage à notre façon à ce pilier de la francophonie ontarienne. Le père de la loi 8 sur les services en français, Bernard Grandmaître. Nos plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Pour mieux connaître ce personnage, je vous propose un entretien réalisé en 2001 à la télévision Rogers à Ottawa dans la deuxième heure. Aussi au programme, aujourd'hui plein feu, coup de projecteur sur la 28e édition du Festival Grand Public Ciné Franco du 7 au 16 novembre au Cinéma Carlton à Toronto, Métro Collège. Ciné Franco 2025, le meilleur et le pire de l'humanité. Il y en a pour tous les goûts. Des films sur l'esclavage, le colonialisme et l'émancipation des femmes. De l'humour et des enjeux liés à l'immigration, l'homosexualité, à la famille dans tous les sens. Un sujet inépuisable. Enfin, Ciné Franco offre le documentaire biographique « Johanna, tout simplement » de Nadine Valsin et le court-métrage « Deux moments de vie » de Quintéry Hervouet. Les deux réalisatrices torontoises seront sur place. Plus de 30 films sélectionnés par la directrice Marcelle Lynn et ses proches collaborateurs sont à l'affiche du festival jusqu'au dimanche 16 novembre au Cinéma Carlton. Et en tant que média partenaire de Ciné Franco, je vous invite à nous suivre en direct chaque dimanche et sur nos réseaux sociaux pour vivre les temps forts du festival et tenter votre chance de gagner vos places. Veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm ou visiter le site cinéfranco.com ou popourrishow.com.
Nyeri kari faula, tama itama jana, ni bala yoro jana, ni nana sila. Lena manyeri kari faula, besoin de rêve, besoin d'évasion, besoin de m'enfuir vers d'autres horizons, besoin de liberté, liberté d'expression, loin des miens, le cœur meurtri, mais c'est j'en pouvais plus, il fallait partir pour mieux revenir. Suis-je un voyageur venu de loin et cherchant un refuge, un petit coin? Je suis un opprimé, je suis un réfugié. Tama, tama jana, nebola yoro jana, ninana dilila. Itama, itama jana, nebala yoro jana, ninana sila, ninana nyeri kalifaula. J'ai voulu inventer un monde meilleur pour nos enfants, un monde d'égalité où le pouvoir n'est pas toujours gagnant. Je vous prie de m'accepter. J'aimerais continuer ce combat, étant en sécurité, et crier fort ce que mon peuple dit pas. Et quand la démocratie est bafouée, les droits de l'homme ignorés, et quand nos vies sont en danger, il faudra que s'en aller. Tama, et tama jana, nebala yoro jana, ninana delila. Nyeri kari faula, itama itama jana, nebala yoro jana, ninana sila, ninana nyeri kari faula. Sorry, I'm not gonna be your Israeli girl.
Et oui, nous venons d'entendre la deuxième découverte de la journée de Telavito Music. Tama, l'album engagé de Kaveh Konaté qui livre un message d'unité et d'espoir. Son quatrième album, un opus de 10 titres, puissant, engagé, où le reggae se mêle aux sonorités du monde et au rythme mandingue. Plus de détails sur cet artiste sur le site telavitomusic.com ou popourichaud.com. Et la 28e édition de Ciné Franco, plus vibrante que jamais, démarre le 7 novembre, du 7 au 16 novembre, au Cinéma Carlton, Métro Collège, à ne pas manquer, j'espère que vous serez nombreux. Et oui, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter un autre de mes coups de cœur, On sera heureux, de Léa Poul. Et oui, qui nous présente un parcours douloureux des réfugiés queer, un film qui est assez problématique dans certains milieux, il faut bien le dire. Un film à voir absolument le samedi 15 novembre à 18h15. Et On sera heureux, c'est le nouveau film de Léa Poul, d'après un scénario original de Michel-Marc Bouchard, qui retrace le périple semé d'embûches de Reza, un Italien homosexuel qui fuit son pays où il risque la peine de mort, et de Sahad, son amoureux rencontré durant l'exil. C'est un peu le même scénario pour certains Africains queer, homosexuels, qui doivent s'exiler souvent pour vivre leur sexualité, leur identité sexuelle. Donc la réalisatrice Léa Poul et le dramaturge parlent de leur volonté de montrer le parcours du combattant des réfugiés queer, souvent invisible, et de confronter le public aux dures réalités de l'immigration, où même l'orientation sexuelle passe dans le tordeur de la bureaucratie. Léa Poul et Michel-Marc Bouchard reviennent également sur les défis du tournage. Plusieurs comédiens ont refusé d'auditionner en raison de convictions religieuses ou par peur de réaction de leur entourage. Par mesure de prudence, le tournage s'est déroulé dans la plus grande discrétion au Maroc. La réalisatrice explique que la liberté québécoise est cause d'abord un choc à ceux et celles qui ont vécu dans l'interdit toute leur vie. Mais elle rappelle qu'il faut redoubler de prudence car ses acquis ne sont pas si solides que ça. Rencontre avec l'équipe, On sera heureux, un film qui sera projeté, je vous rappelle, le samedi 15 novembre à 18h15 au Cinéma Carlton, près du Métro Collège. J'ai une paire de billets. La première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Et n'oubliez pas de faire un don à Popourri Show, la seule et unique émission en langue française sur CUTFM, 40 ans déjà. Allez sur le site www.cut.fm et cliquez sur Donate. Ensemble, célébrons le cinéma et la langue française. Bonne annonce et juste après, un entretien avec Léa Poul.
Je te parle de quelqu'un qui va se faire pendre.
Je pense à toi chaque jour et je t'aimerai toujours.
Je suis Léa Poul et je suis cinéaste depuis bientôt 40 ans.
Pas d'emprunt, pas de
vous savez, ça repousse des empreintes.
C'est donc l'histoire de deux jeunes immigrants qui, à cause de leur orientation sexuelle, doivent quitter leur pays et s'essayent de s'installer au Québec avec tout ce que ça comporte.
Ces gens-là qui demandent à avoir une terre d'accueil sont déjà d'une certaine façon en exil chez eux. Ils sont déjà des sans-papiers affectifs, je dirais.
Bon, moi je pense que c'est un film vraiment important à aller voir, surtout pour les jeunes, parce qu'on pense qu'il y a des droits qui sont acquis, que le travail a été fait, que la communauté homosexuelle est protégée, que les femmes sont protégées, les acquis sont là. Alors que cette histoire nous dit non, c'est ici vous êtes bien, mais ailleurs c'est encore un combat de tous les jours.
Fait-il longtemps que vous êtes ici?
Plusieurs mois, oui.
Bienvenue au Québec.
Donc, mon nom c'est Alexandre Landry. Je suis comédien dans le film On sera heureux. En fait, mon personnage tombe follement amoureux de Saad, le personnage principal. Souvent, on dit l'amour rend aveugle. Ben lui, c'est exactement ça.
J'aime bien ce que vous portez.
C'est classe, non?
Pourquoi t'es gentil comme ça?
Non, ce que je trouve formidable, c'est qu'on a pu faire ce film en partenariat avec le Luxembourg et le Maroc. Moi, j'adore voyager, j'adore découvrir d'autres équipes, de connaître leur cinématographie aussi. Oui, c'est aussi complexe parce qu'il faut découvrir des nouvelles équipes qu'on ne connaît pas.
Donc, le clash des cultures, Puis la façon qu'on fait le cinéma à travers le monde est tellement différent, là. C'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est juste un outil, le cinéma, c'est une façon de pouvoir s'exprimer puis exprimer une vision du monde.
Est-ce que t'as souvent l'esprit ailleurs? Le mal du pays? Là-bas, t'as le choix.
Bah, travailler avec Léa Poule, ça a été, premièrement, un véritable bonheur. Je crois que j'ai eu beaucoup d'expérience en cinéma, mais cette fois-ci, la collégialité a été beaucoup plus naturelle.
Ce qui me plaît chez Léa Poule, c'est sa façon d'observer le monde, puis de donner une ligne, puis une perception, sa perception à elle. Elle l'offre vraiment dans ses films.
Vous allez nous suivre, on a un mandat de déportation.
Il a fait quoi? Fais ça!
Oui, pour moi, c'est un honneur extraordinaire de pouvoir ouvrir le Festival Cinémania le 4 novembre. Puis aussi, le film sort en salle le 7 novembre.
Mon cœur, j'étais le da-da-da, mon cœur. J'étais le da-da-da, mon cœur. J'étais le da-da-da, j'étais le da-da-da. On se regarde tous les deux. Je remercie le ciel de ta voix. Il n'y a rien de plus précieux quand tu poses ton plus beau sourire sur moi. Je ne devais faire qu'un seul vœu, ce serait de donner ma vie pour toi. Au début ce n'était qu'un jeu, mais ta magie s'est abattue sur moi. Aujourd'hui je te promets toute ma vie d'aimer, plus jamais de secret entre nous c'est lié. Je t'aimerai pour toujours, je t'aimerai pour toujours, baby.
Chaîne d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Et au menu ce dimanche, à la francophonie ontarienne en deuil, Bernard Grandmaître, le père de la loi sur les services en français de l'Ontario, est décédé mardi matin à l'âge de 92 ans à l'hôpital Montfort à Ottawa. Il avait la francophonie tatouée sur le cœur. Des centaines de messages et d'hommages affluent sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu le bonheur de le rencontrer à quelques reprises lors de mes fonctions en tant qu'agent communautaire et fonctionnaire. Mais qui est cet homme qui était vraiment effacé, mais extrêmement compétent et tolérant à la diversité de la nouvelle donne franco-ontarienne? Qu'en pensent nos universitaires, les professeurs qui nous écoutent, les grands ténors de la francophonie et les nouveaux arrivants? J'ai l'impression que des fois nous prenons pour acquis que parler français, vivre en français, c'est tout à fait normal dans un milieu anglophone. Les jeunes et les francophones en général ne prennent pas assez de temps, à mon avis, pour mieux connaître la petite histoire de la francophonie locale ou provinciale. Pire encore, nous ne prenons pas assez de temps pour souligner la contribution et apprécier ces piliers de cette francophonie ontarienne en perte de vitesse, comme nous l'indique un récent sondage. Aujourd'hui, tout modestement, nous rendrons hommage à notre façon à ce pilier de la francophonie ontarienne.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire la rencontre d'une personnalité bien connue du monde politique au niveau municipal et ainsi qu'au niveau provincial de l'Ontario, et ce, pendant plus de 30 ans. Homme politique, brillante carrière au niveau municipal, d'abord comme conseiller de 69 à 84, puis élu le plus jeune maire de Vanier par deux fois. Ensuite, en 84, il fait le grand saut au niveau de la politique provinciale. Et là encore, grand succès, détenant des postes de plus en plus importants jusqu'au niveau ministériel, tels que ministre des Affaires municipales, ministre du Revenu, ministre délégué aux Affaires francophones. Beaucoup d'honneurs lui sont dévolus pour son travail à caractère communautaire également. Un aréna nommé en son nom, décoré de l'Ordre de la Pléiade, récipiendaire du prix Chantecler pour sa contribution exceptionnelle à la francophonie ontarienne. Et, il ne faut pas oublier, il est le père de la loi 8 sur les services en français. Avec tous ces indices, vous avez bien sûr reconnu notre invité d'aujourd'hui, Bernard Grandmaître. Monsieur Grandmaître, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Grandmaître, bienvenue à Jean d'ici, premièrement.
Merci bien.
Dites-nous, Monsieur Grandmaître, ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, combien incertaine et même, je dirais même, ingrate, qu'est la politique.
Que la politique. Moi, c'est vrai que c'est de temps à autre très ingrat. Par contre, j'ai toujours été entouré dans ma jeunesse, lorsque j'avais une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, j'ai toujours été entouré par des gens que j'admirais. Les Crêtes, les Viaux, les Desjardins, les grands maîtres. C'était des gens qui fonctionnaient très bien dans la communauté d'East View et de Vanier, aujourd'hui. Et ces gens-là, j'ai toujours eu un grand respect pour ces gens-là. Et ces gens-là avaient la même combativité, si vous voulez. C'était d'améliorer le sort des franco-ontariens dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, les services sociaux, la santé, dans tous les domaines. Alors, pas que j'ai été entraîné par ces gens-là, mais j'ai su reconnaître leur dévouement dans leur communauté, et en plus de ça, que j'aimais ma communauté franco-ontarienne de Vanier. Alors, j'ai décidé, une fois que je suis devenu président de la Chambre de commerce de Vanier, de me lancer en politique afin d'avoir une voix pour les marchands de Vanier au sein du conseil. Mm-hmm. Alors, je suis devenu échevin en 1969. Parce qu'au moment où j'ai été élu échevin, j'étais gérant du nord et de l'est de l'Ontario pour Imperial Oil. Alors, je voyageais le nord de l'Ontario 4 fois par année et l'est de l'Ontario. Et je faisais mon boulot comme échevin et... c'est là que on a décidé, mon épouse et moi-même et ma petite famille, de se lancer en commerce pour que ma femme soit occupée pendant que j'accomplissais mon boulot.
Des chemins.
Absolument. Mm-hmm.
Vous êtes né en Ontario.
Né en Ontario.
À Vanier.
À Eastview.
À Eastview, bien c'est sûr, ça. Dans ce temps-là. C'est, quand est-ce que le nom a changé?
1969. Le 1er janvier 1969, lorsque j'ai été élu échevin.
Ah, le nom changeait en même temps.
C'est ça, c'est ah ça, ben. C'est ça. Vraiment, on a changé le nom parce que à ce moment-là, le conseil avait décidé de reconnaître le grand personnage de Georges Vanier.
Mm-hmm. Le général Georges Vanier.
C'est absolument. Alors, pas que nous avons profité de son décès, mais par contre, on a voulu donner un caractère plus francophone à Vanier.
Oui.
À Eastview. Alors, c'est devenu Vanier. Vanier mm-hmm. existe depuis 1969.
69 jusqu'au 1er janvier de cette année.
Absolument. Voilà. Avec la fusion municipale, ça a disparu.
Et vous l'avez ramené à Ottawa, par
contre. Ramené à Ottawa, ouais. Elle était... enseignante, et elle enseignait à Noëlville pendant un an, mais par mm-hmm. contre, il y avait plus d'occasions, si vous voulez, d'enseigner dans la région d'Ottawa. Mm-hmm. Et Mariette a fait une carrière dans l'enseignement pendant 11 ans, 11 ans ou 12 ans.
Ici à Ottawa.
Ici à Ottawa.
Également, c'est okay. ça. Dans quelle école est-elle?
L'école Baribault, l'école
oui.
Genet.
Ah, mon Dieu.
C'est malheureux que ces écoles-là, surtout l'école Baribault, qui n'existe plus maintenant, il y a plusieurs écoles qui sont fermées, manque d'élèves francophones. Et elle a eu une belle carrière, mais par contre, avec l'arrivée des jumeaux, ça nécessitait beaucoup plus d'attention à la maison, et puis... je préférais qu'elle demeure à la maison elle l'a fait. Elle l'a fait.
Pendant que vous continuez votre carrière.
Exactement.
En fait, je pourrais dire que vous êtes lancé en politique à un moment donné.
C'est ça.
Et comment c'est arrivé ça? Parce que ça m'intrigue énormément. Je suis sûr que ça va intriguer beaucoup nos téléspectateurs.
Comme j'ai mentionné tantôt, à mon arrivée à la Chambre de commerce, On voulait avoir un représentant au sein du conseil. Parce mm-hmm. que tout le monde disait, les marchands disaient, nous ne sommes pas respectés par le conseil municipal. On doit avoir une personne active, élue, mm-hmm. au sein du conseil. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment dans mes plans. Parce qu'en 1969, j'étais encore plutôt jeune, mm-hmm. plutôt jeune. Mm-hmm. Alors, les gens qui m'entouraient, j'ai mentionné tantôt Roger Crête, Hector Ratt, et puis tous ces gens-là mm-hmm. m'ont encouragé, Lee Cyr. Mm-hmm. Alors, ils m'ont encouragé de faire la bataille, et puis je l'ai fait, j'ai été mm-hmm. élu. Mm-hmm. Et puis, Je l'ai fait, j'ai demeuré à l'échelle village pendant 5 ans. Mm-hmm. Et je suis devenu, en 1974, le maire jusqu'en...
Le 80... plus jeune. Ouais.
Le plus jeune maire. Très intéressant. Ouais. Et en 1982, j'ai quitté la politique municipale. Mm-hmm. Mais par contre, je m'excuse, en 80, j'ai quitté la politique municipale. Mm-hmm. Je pensais que j'en avais fait assez pour ma communauté. Mais par contre, à ce moment-là, on parlait de fusion avec la ville d'Ottawa.
Déjà à ce moment-là?
Ah oui, depuis les années 50-60, mm-hmm. on parlait de cette possibilité de fusion. Alors, je suis sorti de mon ombrage et puis je suis retourné à la mairie pour défendre l'éventuelle fusion.
Ah, vous vous êtes fait réélire à ce moment, après avoir quitté.
Oui, j'ai quitté pendant un terme.
Oui, oui.
Et je suis revenu à la tâche parce mm-hmm. que l'élection se passait sur la fusion, la possibilité de fusion.
D'accord.
Alors, je suis revenu
à la charge.
Dans l'arène et moi, je ne voulais pas entendre parler de fusion non. avec la ville d'Ottawa pour plusieurs raisons. Mm-hmm. La raison principale, peut-être, c'était de perdre notre identité
oui.
comme communauté francophone.
Oui, effectivement.
Alors, c'est beau d'appartenir à la capitale, la capitale du pays, mm-hmm. De dire que oui, je suis citoyen d'Ottawa, mais par contre, lorsque tu es vanierois, tu es très, très, très vaillant,
mm-hmm.
Du feu sacré.
Voilà. Là, à un moment donné, vous êtes appelé, et vous allez nous expliquer comment, que vous êtes passé de maire, et pour faire le saut au niveau de la politique ontarienne, au niveau de la province. Comment ça se passe?
À ce moment-là, nous étions représentés, Ottawa-Est était représenté par M. Albert Roy, pendant 11 ans. Et avec l'arrivée de M. Chrétien en 1984, Albert Roy a tenté sa chance au niveau fédéral. Mm-hmm. Alors, ce qui laissait une porte béante pour me présenter au niveau provincial. Ça m'a permis de remplacer Albert Roy.
Oui,
mais par contre, c'était pas tellement intéressant de passer 5 jours par semaine à Toronto, surtout que le Parti libéral avait été dans l'opposition pendant 43 ans.
Mm-hmm.
Alors, c'était de rêver, de penser que un jour, on deviendrait le gouvernement de l'Ontario, et on l'a fait en 1985. Alors, les portes se sont ouvertes assez vite. Avec l'appui de ma famille, avec l'appui de mon épouse, parce que... Écoutez, c'est pas facile de passer les longues semaines à Toronto.
C'est ça.
Et c'est une des raisons pourquoi nous avons décidé en 1985 d'acheter un condominium à Toronto, parce que je voulais pas vivre dans une chambre d'hôtel et m'ennuyer. Alors, on a acheté un condominium à Toronto. Et mon épouse... venait me visiter. Naturellement, moi, je retournais chez moi la fin de semaine, mais par contre, Mariette passait une semaine, des fois 2 semaines par mois à Toronto pour me tenir compagnie et me faire manger et puis me faire dormir.
C'est ça.
En paix.
Pour faire partir de nouveau
absolument.
La semaine après.
Oui, ouais, absolument. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas facile, mais par contre, c'est faisable parce que je l'ai fait et beaucoup d'autres l'ont fait avant moi. C'est beaucoup de sacrifices. En plus de ça, que tu t'en vas dans une communauté anglaise, très froide, Toronto, avec un nom comme Grand Maître que personne ne pouvait prononcer à Toronto. Grand Maître, Grand Matra, Grand. Je levais ma main en leur disant « Oui, c'est moi ». Alors, imaginez-vous, lorsque j'ai été assermenté ministre des Affaires municipales, et les gens de Toronto, surtout Mel Lastman, qui est encore maire de la grande ville de Toronto, me disaient « You were the mayor of where again? » Alors, pour lui, Vanier, ça n'existait pas.
À l'autre bout du monde.
À l'autre bout du monde. Mmh. Mais par contre, j'ai demeuré ministre des Affaires municipales et de tous ces liens.
Vous cumuliez deux ministères.
Deux ministères. J'étais ministre délégué aux Affaires francophones. Mmh. J'ai été le premier franco-ontarien à devenir ministre délégué aux Affaires francophones. Ça a toujours été un anglophone en Ontario. Mmh. Et j'ai eu la chance de travailler sur des dossiers avec Peterson, un premier ministre extraordinaire, qui voyait toutes sortes de possibilités pour la communauté franco-ontarienne. Il m'a toujours appuyé et nous sommes arrivés à la fameuse loi 8.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça? Parce que ça, c'est un des sujets que j'aimerais peut-être que vous rappeliez aux gens. Qu'est-ce que c'est que la loi 8 et ce que ça va faire pour l'avenir?
La loi 8, c'était vraiment pour permettre aux franco-ontariens, franco-ontariennes, de communiquer avec le gouvernement ontarien en français, surtout communiquer. Et en plus de ça, que tout règlement, tout projet de loi, toute loi passée en Ontario devait être présenté en chambre d'une façon bilingue, en d'autres mots, en français et en anglais, ou en anglais et français. Mm-hmm. Alors, ça a toujours continué depuis 1986 que chaque loi en Ontario est dirigée en anglais et en français. Mais par contre, avec l'arrivée d'un certain gouvernement, nous avons perdu des plumes. Mm-hmm. La loi 8 demeure en place, mais par contre, la loi 8 a perdu son pesanteur. Mm-hmm.
L'application est moindre.
Absolument. Mm-hmm. Le respect de la loi 8, on tente de la contourner chaque jour. Mm-hmm. On tente d'éliminer des services que la communauté francophone avait auparavant, comme l'hôpital Montfort et bien d'autres. Et par contre, nous avons réussi à ouvrir trois collèges francophones en Ontario, soit la cité collégiale, le collège de Niagara et le collège Boréal dans le nord de l'Ontario. Alors, la communauté franco-ontarienne a quelque chose à être fière, parce que vivre en français en Ontario n'a jamais été facile, n'a jamais été facile.
Vous, vous êtes retiré de, disons, de la politique active en 99.
En 99.
C'est-à-dire, il y a deux ans à peine.
C'est ça.
Mais ça, c'est officiel. Mais le non-officiel, c'est que vous continuez dans toutes sortes de comités. Ouais. Parlez-nous donc un peu de...
Alors, après ma retraite en 1999, le gouvernement de l'Ontario, de M. Harris, m'a demandé si... je voulais siéger au sein de la commission de la révision de l'évaluation foncière de l'Ontario. Mm-hmm. En plus de ça, j'ai été nommé membre du conseil du CA de la nouvelle hôpital d'Ottawa, avec la fusion.
Le CA?
Le conseil d'administration.
L'administration,
ouais,
d'accord.
Membre du CA.
D'accord.
Alors... que le gouvernement de l'Ontario vient d'abolir ou le ministère de la Santé vient d'abolir. Alors, j'ai toujours eu des chevaliers de colons, j'ai toujours eu quelque chose à faire. Toujours, depuis ma retraite, même mon épouse me questionne assez souvent, quand est-ce que je vais prendre une vraie retraite?
Votre vie politique et votre vie politique, officiellement, c'est terminé en 99, il y a deux ans de ça.
C'est ça.
Mais c'est pas vraiment tout à fait exact.
C'est pas tout à fait terminé parce que lorsque tu es membre d'un conseil d'un hôpital, toujours de la politique. C'est toujours de la politique. Et lorsque j'ai été nommé à la commission de révision, encore là, il y a de la politique. Tu deviens juge des lois du gouvernement provincial. Et mes intérêts demeurent toujours avec la communauté francophone et Je suis souvent demandé pour mes commentaires à la radio, à la télévision. Chose que j'ai jamais refusée, parce que je crois que la communauté francophone doit entendre parler aussi souvent que possible de ces gens et d'encourager d'autres à suivre la bataille.
Oui, à continuer.
De s'engager, c'est ça. Mm-hmm.
Okay. Est-ce que vous prévoyez continuer comme ça ou à un moment donné prendre des vacances bien méritées ou...
ouais. Des vacances, laisse-moi te conter une petite histoire de vacances. Mm-hmm. Je me souviendrai toujours du maire d'André, Jean Drapeau,
oui.
Que mon épouse regardait son programme à la télévision tous les dimanches. Elle était vraiment impressionnée par Jean Drapeau. Les gens appelaient. Jean Drapeau disait, « Oui, au coin de telle rue, oui, il y a telle chose. » Elle dit, « Comment est-ce que Jean Drapeau peut faire ça, comme maire? » Le souvenir de tous ces coins de rue-là, ces raccoins-là, il est au courant de tout. C'est un homme qui travaille 24 heures par jour. Alors, Jean Drapeau était invité à un congrès au Château Laurier. Et à ce moment-là, mon épouse et moi-même avaient été invités de rencontrer Jean Drapeau. Alors, mon épouse lui demande, « Monsieur le maire, je regarde votre émission à la télévision tous les dimanches. Vous semblez travailler 24 heures par jour. Prenez-vous des vacances? » Parce que mon mari n'en prend pas de vacances. Mm-hmm. Il dit, « Madame, moi, je suis en vacances à toutes les 5 minutes. » Il dit, « Je souris. Quand je souris, je suis en vacances. »
C'est formidable.
Oui, formidable. Alors, quand ma femme me parle de vacances, je souris.
Ben, sur ce, M. Grandmaître, je vous remercie infiniment de cette entrevue.
Merci bien. Merci bien.
Et oui, ben, un grand maître n'est plus. On lui doit beaucoup. Et oui, nous avons reçu des messages un peu partout à travers le pays. Des universités, des collèges fonctionnant uniquement dans la langue de la majorité, un drapeau franco-ontarien méconnu et surtout un hôpital Montfort fermé depuis 25 ans. Ce scénario inimaginable est celui d'un Ontario français vivant depuis 39 ans sans la loi sur les services en français. Beaucoup de réactions. Et oui, entre autres, François Boileau, ancien commissaire aux services en français, écrit, je cite, en milieu minoritaire, si on n'avance pas, on recule. Cette loi a été notre socle, la loi 8, celui qui nous permet encore d'aller de l'avant, même après les reculs. Cette loi a inspiré d'autres provinces comme l'île du Prince-Édouard, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, qui se sont chacune dotées d'une loi sur les services en français, rappelle l'ancien commissaire François Boileau. Mes encouragements et condoléances aux sinistrés haïtiens et jamaïcains qui ont subi le passage de la tornade à Mélissa. Et à ne pas manquer, madame, monsieur, Joanne, tout simplement, un très beau documentaire à voir au prochain festival Ciné Franco qui démarre le 7. Et oui, ce film, Joanne, tout simplement, est sur la quête identitaire, pionnière, femme noire, modèle, résilience, art, expression. Un film de Nadine Valsing, qui vit maintenant à Toronto, et elle sera sur place le samedi 8 novembre à 13h30. Tous les détails sur cinefranco.com. Et un autre film, un coup de cœur que je vous recommande, madame, monsieur, ni chien ni maître, un film sur l'esclavage tourné à l'île Maurice, Les Marrons de l'île Maurice. Prévu ce mardi 11 novembre à 18h30 au cinéma Carlton toujours. Fanon, un autre film de mon choix, c'est un film sur le colonialisme qui connaît beaucoup de succès en France et dans les Antilles. Ce film sera projeté le samedi 8 novembre à 16h. Je vous rappelle que j'ai des billets pour vous. Vous m'écrivez tirage au sort tout au long de la semaine. popourri@cut.fm. Alors, c'est ici que prend fin notre voyage intercontinental. Merci à DJ Dovera et ses acolytes à Toronto. Tirage au sort, des billets se poursuit. Madame, monsieur, écrivez-moi popourri@cut.fm. Bon dimanche, à bonne semaine. Que la force soit avec vous. Je vous laisse avec une reprise de la chanson « Mon beau drapeau » célébrant la francophonie en Ontario en hommage à Bernard Grandmaître et peut-être quelques succès de l'heure. C'est à DJ Dovera de faire le choix, le tri. Allez, je vous souhaite bon dimanche, bonne semaine. Ciao!
Ils ont fait souche dans ce pays blanc. Ils ont su donner tellement d'enfants qu'une fois devenus grands ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau.
Anciens.